La Voix de l'Espérance, une émission quotidienne qui vous est proposée par AWR, la Radio Mondiale Adventiste, et présentée par Oscar Miani. Merci de votre fidélité à la Voix de l'Espérance à travers les ondes, par internet sur www.awr.org ou aussi grâce à votre téléphone. Aujourd'hui, au programme, dans quelques instants, ce sera votre rendez-vous santé. Ensuite, vous retrouverez votre chronique Reflet d'actualité. Et enfin, nous terminerons avec une nouvelle réflexion sur notre antenne.
Avec Destination Santé, Emmanuel Ducreuset.
Bonjour à tous. La maladie rénale chronique touche un Français sur 10. Cette maladie, caractérisée par une altération des fonctions rénales, n'est pas dépistée assez précocement. Résultat, près de 50 000 patients se retrouvent en dialyse et 40 000 nécessitent une transplantation. Le rein, c'est un tout petit organe qui lave et épure le sang, élimine les toxines, produit de l'EPO, l'hormone qui participe à l'augmentation du nombre de globules rouges, régule la tension artérielle et le métabolisme du calcium en activant la vitamine D. Malheureusement, quand il se met à moins bien fonctionner, les conséquences peuvent être importantes. C'est le cas de l'insuffisance rénale, qui se traduit par une diminution des capacités du rein à nettoyer et filtrer les toxines présentes dans le sang. On parle volontiers d'une maladie sournoise et silencieuse, dans la mesure où malheureusement il n'y a pas de signe précurseur jusqu'à ce que 90% du rein soit détruit. À un stade plus avancé, le patient risque de ressentir une grande fatigue, des nausées et un dégoût pour les viandes. Malheureusement, à ce moment de la maladie, il doit débuter une dialyse, ce qui entrave considérablement sa qualité de vie. C'est pourquoi le dépistage est si précieux, car on peut très bien vivre avec une insuffisance rénale chronique à un stade avancé sans en arriver à cet extrême. Des mesures dites de néphroprotection reposant sur l'alimentation et l'activité physique associées à des médicaments permettent d'éviter la dialyse. C'est d'autant plus vrai aujourd'hui avec l'arrivée de molécules très prometteuses de protection des reins. Le diabète, l'hypertension artérielle et l'insuffisance cardiaque sont autant de facteurs de risque. Le dépistage doit donc s'adresser en priorité à ces patients présentant ces facteurs. Une priorité aujourd'hui, tant les maladies chroniques comme le diabète, l'obésité et les maladies cardiovasculaires pèsent lourdement sur la fonction rénale. Selon une enquête d'OpinionWay menée en partenariat avec AstraZeneca France, plus de la moitié des Français affirment mal connaître la maladie. C'est pourquoi le rôle des associations de patients est majeur pour davantage sensibiliser. L'association France Rein œuvre entre autres pour représenter les intérêts des patients et de leurs proches auprès de l'ensemble des acteurs, institutions publiques, laboratoires pharmaceutiques, médecins. Pour davantage d'informations, rendez-vous sur le site de l'association France Rein à www.francerein.org.
Avec Destination Santé, Emmanuel Ducreuset.
Bonjour à tous. Moins de souffle, risque cardiovasculaire, porter un masque pour pratiquer une activité physique expose-t-il à un risque? Rassurez-vous, si vous êtes en bonne santé, cela n'impacte en rien vos capacités. C'est désormais bien connu, la principale voie de transmission de la Covid-19 se fait via des gouttelettes respiratoires. Or, au cours d'un exercice, nous respirons plus fort, ce qui peut faciliter cette transmission à l'intérieur. Si l'on sait que le port d'un masque aide à prévenir la propagation de la maladie, il n'existe aucune preuve claire indiquant si les masques peuvent être portés en toute sécurité pendant un exercice vigoureux, comme une séance de sport par exemple. C'est pour le savoir que des chercheurs de l'université de Milan ont travaillé sur un groupe de volontaires en bonne santé composé de 6 femmes et 6 hommes âgés en moyenne de 40 ans. Chacun des participants a réalisé 3 séries d'exercices sur un vélo d'appartement, sans masque, avec un masque chirurgical, puis avec un masque FFP2. Les résultats des tests ont montré que le port d'un masque avait un léger effet. Par exemple, une réduction d'environ 17% de leur capacité à effectuer des exercices d'aérobie. Une baisse probablement due au fait qu'il était plus difficile pour les volontaires d'inspirer et d'expirer à travers les masques. Mais pour les auteurs, cette réduction est modeste et n'implique pas de risque pour les personnes en bonne santé. Cette découverte pourrait avoir des implications pratiques dans la vie quotidienne, par exemple en rendant plus sûre l'ouverture des salles de sport.
Vous aussi, votre santé vous intéresse? Alors si vous souhaitez en savoir plus, demandez-nous l'ouvrage « Santé et bien-être » des éditions Vie et Santé. Nous aurons le grand plaisir de vous en adresser un exemplaire gratuitement sur simple demande de votre part à france@awr.org.
Vous êtes toujours à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste et c'est votre émission La Voix de l'Espérance qui vous est présentée par Oscar Miani et toute l'équipe pour vous accompagner jour après jour. Si vous souhaitez avoir notre grille des programmes ou bien si vous voulez vous adresser à nos invités, eh bien c'est très simple, il vous suffit de nous le faire savoir, soit depuis notre site internet sur www.awr.org ou alors par courrier à IEBC, La Voix de l'Espérance, boîte postale 100 77-193 d'Amary-Lélis Cedex.
Reflet d'actualité.
Une approche chrétienne de l'actualité de la semaine.
Amis auditeurs, bonjour. C'est Joël Fayard aujourd'hui à ce micro pour une réflexion intitulée « Premier anniversaire ». Proposer un bilan de cette période de coronavirus en ce mois de mars 2021, alors même que les actualités télévisées et la presse continuent quotidiennement leur mise en garde alarmiste, cela pourra paraître incongru ou pour le moins prématuré. Mais si je propose ce bilan à notre réflexion, c'est qu'un anniversaire a lieu ces jours-ci et que quelques commentateurs, observateurs et chroniqueurs déjà s'y risquent. Car souvenez-vous, c'était pour la France en tout cas il y a à peu près un an. Je fais partir mes relevés de date de début 2020, même si on le découvrira plus tard, les premiers cas suspects furent identifiés en France dès les mois de novembre et décembre 2019. 14 février 2020, le premier décès dû au coronavirus est recensé en France. Il s'agit de deux touristes chinois. 16 mars, le président Macron, dans une allocation télévisée, parle de la plus grande crise sanitaire depuis un siècle, déclare la France en état de guerre, décrète la fermeture des crèches, écoles, collèges, lycées et universités, la fermeture de tous les lieux publics non indispensables à la vie du pays, masques obligatoires et déplacements réduits au strict nécessaire. 17 mars, la France entre dans son premier confinement généralisé. Au début annoncé pour une période de 15 jours, ce premier confinement verra sa fin régulièrement repoussée. 11 mai, la France entre dans une période de déconfinement progressif après 55 jours de confinement. 30 octobre, après un été à peu près tranquille, c'est le deuxième confinement généralisé. 27 décembre, ouverture officielle de la campagne de vaccination. 29 janvier 2021, levée progressive du confinement généralisé remplacé par un couvre-feu, d'abord localisé puis généralisé à la France entière. 4 mars 2021, le gouvernement continue ses annonces de consignes restrictives qui se succèdent les unes après les autres. Cela concernera d'abord de grandes villes, des départements entiers, puis des régions. Le confinement s'applique de façon de plus en plus sévère. On ne sait pas si un troisième confinement généralisé se produira, mais rien n'est exclu. Tout paraît possible. La campagne de vaccination monte en puissance en ce début mars 2021, mais dans la confusion. Car, d'un côté, le gouvernement peine à fournir les vaccins, qui ne sont pas mis au point ni produits par la France, pour une population majoritairement en demande. Et d'un autre, la majorité du corps médical n'est pas prête du tout à s'engager pour recevoir le vaccin. Selon une info rapportée par la chaîne BFM TV ce 4 mars, seul un soignant sur trois a demandé à être vacciné. Ce qui inquiète, c'est que ces soignants, au plus proche donc des sources et informations médicales, puisqu'ils côtoient et sont le corps médical, admettent que les infos de première main qu'ils ont ne les incitent pas du tout à se faire vacciner. Troublant, n'est-ce pas ? Une très grande majorité des soignants, 66%, les deux tiers, refusent le vaccin, alors même qu'ils sont prioritaires et que celui-ci est disponible et leur est réservé en priorité. Ils ont donc la paradoxale mission d'injecter un produit qu'eux-mêmes refusent. Le développement actuel du vaccin anti-Covid pose donc bien un problème et ne fait pas l'unanimité. Décidément, la pandémie est encore loin d'être sous contrôle. Ça, ce sont les faits, établis dans une perspective chronologique. Mais les populations, comment réagissent-elles face à cette situation qui perdure et s'éternise et face à ces restrictions plus ou moins contraignantes et quasi sans discontinuité depuis un an ? Plusieurs attitudes apparaissent au fil du temps, des générations ou bien simplement selon le tempérament de chacun. Certains, la plupart, se résignent. Ils font le gros dos et, rentrant la tête dans les épaules, attendent que cela passe ou bien attendent, hélas, le coup suivant. D'autres se révoltent et crient leur colère et leur ras-le-bol de ces entraves à leur liberté, quand d'autres, réunis sous l'étiquette de complotistes, nient tout simplement les faits, criant au complot prémédité face à la moindre statistique ou prise de position qui ne leur convient pas. Les contraintes et difficultés croissantes apparues dès le premier confinement de mars 2020 touchent beaucoup de catégories de personnes. Les commerces dits non essentiels d'abord, avec tout ce que ce mot peut contenir de contestation, qui virent leurs boutiques fermées, privées donc de tout moyen de subsistance, les bars, les restaurants. Les professionnels du voyage, les croisiéristes, les hôtels, les compagnies aériennes, sans oublier, au final, les constructeurs d'avions. Et l'hiver venu, les sports d'hiver. La culture aussi, les musées, les cinémas, les spectacles en tout genre, bref, les arts d'une façon générale. Depuis un an, toutes ces activités sont quasi à l'arrêt, et ce sont gérants et employés qui souffrent, les faillites qui s'enchaînent, et un gouvernement qui s'endette toujours plus pour tenter d'apporter son aide à ceux qui sont le plus en difficulté. Quand et comment tout cela va-t-il finir ? Mais alors que toutes les activités humaines avaient quasiment cessé dans toutes les régions du monde, un étrange phénomène est apparu. Figurez-vous qu'alors même que l'économie ralentissait, mettant nombre de personnes en grande difficulté, eh bien notre planète, la Terre, s'est mise, elle, à aller beaucoup mieux. Je veux dire par là que les activités polluantes de l'industrie mondiale cessant, le ciel s'est dégagé. Oui, physiquement, concrètement. À quelques mois d'écart, les satellites ont pris des photos de régions entières. Et incroyable, ces photos qui montraient auparavant des nuages à forte teneur en matière polluante au début de la pandémie, on a découvert sur de nouveaux clichés pris quelques mois plus tard, les activités polluantes drastiquement ralenties et les polluants étant dispersés, des cieux en train de redevenir purs. Mais alors que l'on s'est si souvent ému à ce micro et dans ses chroniques sur les effets de la pollution jugée irréversible sur Terre, voici que, sans le vouloir ni même le programmer, des solutions sont nées, d'elles-mêmes, sans choix réel, et le résultat est là, palpable, concret, visible. Mais encourageante perspective ou bien constat d'échec cuisant ? Car, et selon la maxime populaire, que choisir à présent entre la peste et le choléra ? Car si on le constate, arrêter les activités humaines est bénéfique pour la planète, cela ne peut évidemment pas être la solution à long terme. Nous avons besoin, pour vivre, de produire. Mais continuer comme avant, c'est donc reprendre la destruction de la planète et de l'habitat humain avec, pour échéance, en fait, on ne sait pas trop. Mais cela n'est guère réjouissant et nul n'a envie d'y aller voir, n'est-ce pas ? Ce premier anniversaire, c'est donc bien un premier constat, une première prise de conscience. Et maintenant ? Allons-nous, une fois cette alerte jugulée, revenir à nos fonctionnements d'antan, au risque, les mêmes causes produisant les mêmes effets, de nous retrouver dans un an, à marquer notre deuxième anniversaire dans une situation identique, voire même dans une situation pire qu'aujourd'hui ? Je crois qu'il n'est plus possible de tergiverser. Notre envie et notre besoin de consommer doit être canalisé dans un rendement juste qui permette de trouver l'équilibre entre les besoins des consommateurs et des populations, tout en éliminant le superflu et une demande d'un confort outrancier qui exploite et vide la planète au seul profit des plus nantis et dirige l'humanité vers des échéances que l'on ne peut accepter car chargées de trop de menaces. Mon souhait, c'est que ce premier anniversaire marque notre engagement et notre prise de conscience, qu'il indique et marque un temps qui montre que nous l'avons compris, nous n'avons qu'un seul lieu de vie et qu'il faut le protéger, le partager, le faire durer. Bon anniversaire à toi, notre chère planète, et promis, nous ferons tout pour ne pas avoir à marquer de deuxième anniversaire. Nous avons compris la leçon. Cette fois, on ne nous y reprendra plus. C'était Joël Fayard à ce micro pour une réflexion intitulée « Premier anniversaire ». Une chronique que vous pouvez retrouver en téléchargement audio sur notre site internet et un texte qu'il vous suffit de nous demander. Écrivez-nous, nous vous l'enverrons. À bientôt.
Hier ist Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung.
Questa è la radio mondiale adventista.
La voce della speranza.
the ways of your heart. This is the cry of your people. Well, this is the cry of your people. Come, Holy Spirit, rain down your mercy. Lord, we have come here to worship. This is your temple. We are your people. Lord, we have come here to worship. Come, Holy Spirit. We are unworthy, yet boldly we come. Where your Spirit draws near, your will is made known. This is the cry of your
Ici, c'est toujours la Radio Mondiale Adventiste. Vous êtes à l'écoute de La Voix de l'Espérance avec Oscar Miani au micro et toute l'équipe. Bienvenue à vous qui venez de nous rejoindre. Vous nous suivez en ondes courtes sur les 6155 kHz dans la bande des 49 mètres à 4h30 en temps universel. À 8h, c'est sur les 15145 kHz dans la bande des 19 mètres et à 20h sur les 9780 kHz dans la bande des 31 mètres que vous pouvez nous écouter. Et maintenant, je vous propose de poursuivre avec votre émission 5 minutes pour comprendre. Et c'est en partenariat avec Hope Channel France que vous pouvez aussi visionner sur le site hopechannel.fr. Amis auditeurs, bienvenue à l'écoute de Rencontres et Témoignages. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Gérard Fomerand. Bienvenue.
Merci à vous, bienvenue aussi.
Je rappelle que vous êtes historien du christianisme, que vous êtes auteur d'un ouvrage qui s'intitule « Renaissance du christianisme ». Il est paru aux éditions Fidélité. Aujourd'hui, je vous propose de continuer nos échanges, nos discussions qui ont déjà commencé depuis un certain temps. Dans votre ouvrage, on peut y voir que vous y consacrez un chapitre à la relation entre deux êtres que vous intitulez « Quand l'esprit devient chair ». Vous y citez d'ailleurs le Cantique des Cantiques. Que faut-il y comprendre à ce passage ?
Comme vous l'avez compris, tout le fil de mon travail de réflexion qui a duré pas loin d'une cinquantaine d'années est une réflexion sur l'écriture intérieure, que l'on écrit à l'intérieur de soi-même en la vivant et non pas en la disant, ce qui est tout à fait autre chose. Et que trouvons-nous dans l'écriture? Je cite au hasard et en désordre quelques textes qui me viennent à l'esprit, bien sûr le prologue de Jean, « L'esprit s'est fait chair ». Et il est venu camper ou habiter parmi nous. Je cite la Genèse. Adam connut sa femme Ève, dans le sens, donc, bien sûr, d'une relation sexuelle, mais d'une relation de connaissance dans le plus intime de l'être de l'autre. Et je cite, bien sûr, ce joyau, ce cœur de la Bible, ce texte qui est le plus saint, comme le disait Rabbi Akiba, un des grands rabbins du deuxième siècle, qui est le plus saint de toute l'écriture, le cantique des cantiques, à savoir le cantique de la relation chantée entre le bien-aimé et son bien-aimé. Or, vous savez, dans la tradition hébraïque dont nous sommes, je l'affirme, les héritiers directs, tout autant que les juifs, eh bien, il y a cette idée omniprésente que quand l'homme connaît sa femme ou que la femme connaît son mari, eh bien, Dieu est là, la présence, la Shekinah en hébreu. La présence divine inonde de sa présence, de sa grâce illuminante, transfigurante, la rencontre charnelle de l'homme et de la femme, les deux étant image de Dieu.
C'est comme ça qu'on doit comprendre quand l'esprit devient chair?
Absolument. C'est un renvoi à l'évangile de Jean, à savoir Dieu s'est fait homme, et les Grecs, les Orientaux ajoutent pour que l'homme se fasse Dieu. Et là, nous avons résumé l'ensemble de l'écriture. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne image de Dieu. Nous sommes là dans la totalité de l'écriture. À partir de cela, que s'est-il passé? À partir de ce texte qui est un appel à la spiritualité intérieure la plus profonde, on a construit encore une fois des systèmes. Des systèmes, des codes, voire même des moralismes, voire même des interdits.
Par rapport à la sexualité, vous voulez dire?
Bien entendu. À savoir que l'on a moralisé, que l'on a interdit, que l'on a codifié, qu'on a institutionnalisé une relation qui est fondamentalement spirituelle entre l'homme et la femme, se connaissant dans leur intimité secrète, elles-mêmes attirant la présence divine en eux et sur eux. Quelle subversion du christianisme!
Pour vous, Gérard Fomorant, l'acte sexuel est une relation spirituelle?
Au sens de la tradition hébraïque, certainement. Sous réserve, bien entendu, qu'il s'agisse d'un dépassement, d'une transcendance de l'amour, d'un amour dans la durée entre un mari et une épouse, unis par un engagement commun dans ce voyage hors du temps qu'est l'amour dans la durée.
Gérard Fomorant, merci pour votre partage à ce micro, pour vos venues régulières aussi. Je rappelle que les auditeurs peuvent retrouver tout ce dont vous nous parlez sous forme d'écrit dans un livre que vous avez intitulé « Renaissance du christianisme ». On le trouve aux éditions Fidélité. On peut se le procurer en le commandant sur Internet ou bien en le commandant directement à l'éditeur. On se retrouve bientôt pour une nouvelle chronique de rencontres et témoignages. Merci, au revoir.
Au revoir à vous et merci.
Connaissez-vous la vie? La vraie? Vous aspirez à ce que la vôtre soit meilleure? L'IEBC, l'Institut de la Bible par correspondance, peut vous aider. Ses cours sont gratuits et à votre rythme. Retrouvez-nous vite sur www.iebc.org et vous verrez, votre vie va changer. Parce que croire, c'est la vie.
Si vous souhaitez réécouter ce programme ou bien le partager avec vos amis, retrouvez-nous sur www.awr.org. Vous pouvez aussi nous suivre par téléphone. Depuis la France, il vous suffit de composer le 01 80 14 44 77. En dehors de France, vous faites le 00 33 puis le 1 80 14 44 77 et depuis les États-Unis, eh bien vous composez le 1 712 432 77. 9978. Et pour nos coordonnées postales, la Voix de l'Espérance, IEBC, boîte postale 100 77193, Damary-Lélis, CEDEX. Votre émission est pour aujourd'hui terminée. Vous écoutiez la Radio Mondiale Adventiste et c'était La Voix de l'Espérance. Vous étiez en compagnie d'Oscar Miani. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure pour votre nouveau programme. Au revoir.